Et voici humblement prosterné à vos pieds afin d'implorer votre infinie miséricorde pour moi, pour les pécheurs, pour les mourants et pour les âmes de vie trépassées. Daignez m'appliquer les mérites de votre sainte passion que je vais méditer. Ô Notre-Dame de cette douleur, daignez m'inspirer les sentiments de compassion et d'amour avec lesquels vous avez la première suivi votre divin Fils dans la voie douloureuse du calvaire. Première station. Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christe, de benedice nos tibi.
Ia casadam crucendo a benedice mondo.
Ô Jésus, mon sauveur, vous les créateurs du ciel et de la terre, vous acceptez d'être jugé et condamné par un tribunal humain, pour que je ne suis pas condamné au tribunal divin. Donnez-moi de pleurer mes péchés qui sont la cause de votre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Mystère nostri Domine.
Mystère nostri.
Fidèle Marie, Mère de miséricordia, Dei rebus cantim in pace.
Amen.
Cuius anima. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Ô quant triste cette Africa,
Amen.
Svete sebebe.
Adonus te Christe, da benedicimus tebi.
Gloria Santa Cruce, gloria Christi,
gloria. Ô Notre Dame des Seigneurs, qui combattissez si pleinement à la passion de votre divin Fils, veuillez m'obtenir et pleurer avec vous et d'avoir un cœur transpercé comme le vôtre, par tant de souffrances endurées pour mon salut. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Miséricorde nostri Domine.
Miséricorde nostri.
Fidelium animae per misericordia Dei requiescant in pace.
Amen.
Je fuirai les occasions dangereuses et avec votre grâce, je ne veux plus retomber. Je vous souligne, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous pour cette bénédiction de toutes les femmes, Jésus-Christ, le vos entrailles et béni.
Sainte Marie, le Dieu, le Dieu, mon bon pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Miser nostri Domine,
miser nostri. Amen.
bénis m'apprendre à mortifier ma chair et tous mes passions périlées. Ô Notre-Dame de Saint-Hubert, bénis graver profondément à mon cœur les saintes plaies de Jésus crucifié. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Miséricorde Domine.
Miséricorde Domine.
Fidèle de mon ami, Père miséricordieux, Dei requies cant in pace.
Amen.
Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Ô Jésus, qui dans votre agonie pardonnez à vos mots, ouvrez le ciel pour la honte répandant, et nous donnez votre mère pour qu'elle devienne la mère de nos âmes. Daignez par votre mort douloureuse nous accorder de mourir dès maintenant au péché et de faire en votre amour une sainte mort. En union avec la vôtre et en expiation de mes péchés, j'accepte dès maintenant la mort qui vous plaira d'envoyer. Cœur agonisant de Jésus et vous, cœur immaculé et douloureux de Marie, je vous confie ma dernière heure et la dernière heure de tous les pécheurs. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.
Misère nostri Domine,
misère nostri.
Fidelia l'anima per misericordia Dei requiescant in pace.
Amen.
Agnete cum pietre,
Luce Cristo frondorere, Domine cum miscero.
Troisième station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Ô Notre-Dame de Saint-Hubert, ce sont mes péchés qui ont crucifié votre divin Fils. Daignez m'apprendre à contempler chaque jour ces saintes plaies et à m'y réfugier dans la pensée, par la pensée dans les tentations. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Misère nostri Domine,
misère nostri.
Et de l'anime per misericordia Dei requiescant in pace.
Amen.
Justa cruce.
Quatorzième station, Jésus est mis dans le tombeau. Ô Notre-Dame de Saint-Hubert, je ne veux pas quitter ce tombeau. Pour vous laisser le corps sanglant de Jésus sans vous promettre de vivre un vrai chrétien avec votre aide. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Misère nostri Domine.
Misère.
De la récollection. Nous avons vu ce matin d'abord dans les sermons cet acte de foi solitaire de la Sainte Vierge qui doit rester devant nos yeux par la situation que nous sommes en train de vivre et que nous allons vivre les prochaines années, l'imitation de Marie dans cette solitude à cause de la foi. Le samedi saint s'élève de cette terre, dit Saint Bernard et Saint Alphonse, l'acte de foi le plus solitaire, le plus cruel, le plus parfait de l'histoire. La gloire qui a donné la Sainte Vierge à la Très Sainte Trinité, eh bien, ça doit nous donner beaucoup de courage. Nous allons imiter la Sainte Vierge parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de garder le magistère romain traditionnel. Vous allez passer par la solitude. Vous allez vous insulter, intégriste. Ils vont vous dire, très bien, courage, n'ayez pas peur, pour garder la foi catholique. Alors, préparez-vous à cette solitude. On a médité ça. On a vu, dans l'autre instruction, la nécessité de nous fortifier spirituellement par l'oraison mentale, la prière, l'union. Il y a des nouveaux obstacles à la vie des prières, d'union, d'oraison, qui sont données par cette, ce qu'on a appelé cette révolution culturelle, cet subjectivisme qui vous le propine pas doctrinalement. Il y a une culture subjectiviste. Et alors voilà, apparaître sous les lèvres des catholiques, les paroles, c'est ta vérité, Dieu existe seulement si je le pense. Vraiment, on voit qu'il y a là un travail qui sont en train de faire par cette religion subjectiviste, Et on a vu aussi donc les autres filtres de ces révolutions culturelles qui pratiquement nous font vivre à leur façon. Soit le protestantisme, l'humanisme, le libéralisme, le socialisme, comme doctrine, ils engendrent une culture protestante, une culture humaniste, une culture libérale, un modèle de vie. Et alors, ces principes de psychologie qu'on a vus, où vous vivez comme vous pensez, ou autrement, vous allez terminer à penser comme vous vivez. Ce que nous disait le père Bariel, ce qui nous fait du mal, c'est de vivre dans une culture, dans une société qui n'est pas catholique. Alors, lui nous disait, on voit les autres faire ça, et on croit que nous aussi, on a le droit à faire ça. Télévision, bon, très bien. Voilà, ça c'est la révolution culturelle. Il ne vous attaque pas directement avec la doctrine, mais il vous crée une culture par la publicité, par la télévision, par les journaux. Il ne faut pas discriminer. On devient pluraliste, on devient relativiste. Ils ne vous le disent pas, hein, mais on termine à penser comme on vit. Ils nous font vivre dans leur société. On a vu donc les dangers qu'il y a de ça et les remèdes que nous devons prendre en main. D'abord, les exercices spirituels. Revenez, recrutez, persévérez, prenez ces grands moyens, n'est-ce pas, de se remettre de nouveau dans le bain, dans cette considération de vérité éternelle. Et on a vu, donc, les choses sont en dehors de moi, sont objectives. Même si je ne les crois pas, je ne les pense pas, même si je me renferme dans la pensée, n'est-ce pas, mais si je dors. Et celui qui les a fait, et Dieu, c'est la même chose. Dieu existe, même si les gens n'ont pas le temps, s'ils ne les croient pas, ils ne les sentent pas. Même s'ils se renferment dans leurs pensées, Dieu continue à exister objectivement comme cette pierre, cet arbre, n'est-ce pas? Et alors les deux éternités aussi sont objectives. Là, il n'y a rien à faire. Oh, oh, il ne faut pas perdre les banquets éternels. Parce que l'autre, ces paroles, je la répète, le père Bariel disait, j'ose la prononcer parce que c'est les lèvres de notre Seigneur qui l'ont prononcée, supplice éternel. On n'ose pas regarder les gens aujourd'hui, est-ce qu'ils sont atteints des grâces, tous ces gens qui en croisent, est-ce qu'ils ont encore la foi? Enfin, on n'ose pas penser. Le Père Bariel disait, mettez tout ça dans le cœur de Jésus. Mais maintenant, c'est vous que vous devez continuer à croire jusqu'à la mort à ceux qui nous ont enseigné tous les papes. Même si aujourd'hui, ils nous enseignent tout le contraire. Alors, on voit dans la nécessité donc de ces exercices spirituels. Bon, et maintenant, il faudra dire deux paroles sur la situation actuelle, donc soit l'Église et soit la société. Pour la question de l'Église, je ne veux pas me prolonger beaucoup, parce qu'il y a, même à la sortie, vous pouvez l'acheter, en fait, c'est le travail qu'ils ont fait avec tous mes confrères, chacun y travaille pour faire la documentation de ce qui se passe. Moi, je m'occupe un peu, ce travail son importance, mais enfin, de l'Osservatore Romano. Et disons que les nouveaux de ces deux dernières années, c'est que le pape Jean-Paul II, lui qui se disait tellement marial pour la Sainte Vierge, il a commencé à faire des discours en baissant la Sainte Vierge. C'était inévitable. Ils veulent s'approcher du protestantisme. Ils veulent faire le communisme. Ils disent que c'est irrénonçable, c'est un non-retour. Ils veulent faire ça. Et les protestants, ils rabaissent la Sainte Vierge. Et alors, les hommes de l'Église, pour faire l'union avec les protestants, ils doivent tirer en bas la Sainte Vierge. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce n'est pas la Sainte Vierge qui écrase la tête du serpent. La femme de l'Apocalypse, ce n'est pas la Sainte Vierge. Il ajoute, c'est la communauté du peuple de Dieu qui engendre le Christ ressuscité. Bon, courage. Enfin. L'année passée, il a dit, Jésus-Christ sur la croix n'a pas proclamé formellement la maternité universelle de Marie. Il a seulement établi une relation personnelle avec les disciples Jean. Horreur, mais ça n'est pas. Moi, je suis italien, malheureusement, c'est moi qui dois lire ça. C'est l'Osservatore Romano. Alors, bien sûr, j'ai mis en face tous les autres papes. Mais tous les autres papes, ils ont dit, c'est la Sainte Vierge qui écrase la tête du serpent, mais c'est Léon XIII, Pie X, Pie XI, Pie... La femme de l'Apocalypse, c'est la Sainte Vierge. Et textuellement, Léon XIII, quand il fait des encycliques sur les rosaires, il dit « Jésus-Christ sur la croix a proclamé la maternité universelle », il utilise juste une autre parole, « la maternité sur tous les hommes des maris dans la personne de Saint Jean ». Il a dit juste le contraire. Alors voilà ce que nous disait Monseigneur. Et maintenant, à qui on va désobéir? À qui on va obéir? À qui on va désobéir maintenant? Parce qu'on ne peut pas obéir à deux. Mais alors la solution, c'est toujours la même, dit Monseigneur. Continue à faire croire tous ceux qu'ils ont fait, tous, partout, dans tout lieu. Courage. Enfin, ce n'est pas terminé la crise de l'Église. Vous avez la documentation. Mais alors, je voudrais attirer un peu votre attention sur la situation, disons, un peu temporelle. Vous avez entendu peut-être parler qu'en Italie, le gouvernement italien a condamné la fraternité Saint-Pédis comme secte cette année. D'abord, permettez-moi de faire une parenthèse, je m'excuse, je vous donne les excuses nationales italiennes de cette condamnation. Lorsque tout sera rétabli par la justice, les responsables seront condamnés par la justice italienne, rétabli l'État catholique. Enfin, ils l'ont fait. Bon, de quoi s'agit? Vous avez certainement entendu parler, la question des sectes, un peu partout, etc. Pour faire brièvement le tableau, après je les ferai un peu plus long, c'est l'ONU qui depuis 1981 a fait les fameux décrets pour la élimination de toute forme d'intolérance et discrimination fondée dans les credo. Ils demandent à toutes les nations de faire une commission, ils l'ont déjà fait en France, en Belgique, en Italie, je vous dirai un peu les dernières nouvelles. Et en Italie, alors pour la première fois historiquement, depuis l'empereur Constantin, il a fallu quand même 1500 ans, ils ont condamné de nouveau le catholicisme. Parce que mettre la fraternité Saint-Pédis dans la liste des sectes, c'est pas qu'ils vont condamner nous comme personne, pas Monseigneur Lefebvre comme personne, ou Monseigneur Fellet, ils condamnent ce que nous représentons, les magistères romains traditionnels. C'est la Quanta Cura qui est condamnée. C'est le Pascendi qui est condamné. C'est la Quas Prima sur l'autorité sociale qui est condamnée. Parce que nous sommes condamnés parce que nous croyons à cette magistère romain traditionnel. Parce que si vous régniez la Quanta Cura, la Pascendi et la Quas Prima, vous n'êtes plus condamné. Ah voilà. Alors, ils n'ont pas condamné la fraternité Saint-Pédis. Ils ont condamné ce qui représente la fraternité Saint-Pédis. Ça, c'est quand même capital. Voilà, alors on est prêt, on va voir ce qu'on va faire. Ce sera le bon Dieu qui fera. Mais enfin, il faut savoir. Donc, il y a tout ce travail qu'ils sont en train de faire. Et c'est évident qu'ils sont en train de se préparer un monstrueux appareil juridique pour un jour serrer les boulons à tous les catholiques. Bon, on savait déjà, le monde actuel, c'est le résultat des 6 siècles de déchristianisation. Alors, on sait que ce n'est pas pour demain la victoire, sauf intervention de Dieu. Les autres, ils sont en train de gagner terrain. On sait encore que l'Église catholique a été toujours persécutée. Les catholiques, lorsqu'ils viennent au monde, ils doivent se demander de quel côté va sortir la persécution. Ils savent déjà que l'Église doit être persécutée. Au début, c'était les Romains païens, terminent ça, ça commence les barbares, l'invasion barbare, termine les barbares et commencent les musulmans, après c'est la révolution protestante, libérale, socialiste. Enfin, on sait déjà que le salaire de cette vie pour aller au banquet éternel, d'un côté ou de l'autre, va sortir la persécution. Je le répète, Saint-Pédis disait, l'Église catholique, une sainte catholique apostolique, est persécutée. Alors peut-être maintenant, on commence à envisager, ah, attention, ça va venir par là. Et le tableau général, pour comprendre la situation, c'est d'abord la lutte entre les bien et les mal, c'est la christianisation après les ténèbres du péché originel, bien sûr, et la déchristianisation par la révolution humaniste, protestant, libérale, socialiste. Maintenant, les mêmes principes maçonniques rentrent dans l'Église, et on arrive à aujourd'hui. Donc, c'est les paroles de Pie XII. J'aime volontiers m'appuyer sur les magistères romains. Pie XII, il dit, ses premiers discours, 1952, ils ont commencé à dire « la nature, oui, la grâce, non ». Après, le Christ, oui, l'Église, non, le protestantisme. Après, ils ont dit Dieu, oui, et le Christ, non, le déisme libéral. Et après, les cris en pis, Dieu est mort, le socialisme actuel. Donc, les magistères romains, ils nous préviennent déjà que le monde actuel, c'est le résultat d'une déchristianisation. D'où en concret, si vous voulez résumer la situation, vous pouvez la résumer, je vous offre cette explication, si ça peut vous intéresser. C'est les conséquences de la vérité objective à niveau religieux, politique, social, économique, ou le relativisme avec toutes les conséquences religieux, politique, social, économique. Si vous voulez, c'est deux fondamentalismes. Ou la vérité objective avec toutes ses conséquences, ou le relativisme, mais les relativismes, ils ne vont pas s'arrêter. Ils sont déjà passés du divorce, à l'avortement, l'euthanasie, l'homosexualité. C'est horrible ce qui se passe maintenant. Je vous préviens, les prochaines années, nous aurons à essuyer une révolution culturelle homosexuelle horrible. On le voit partir partout. J'étais à Milan hier, je passais dans une grande avenue de Milan, un tableau publicitaire, 5 mètres pour 10, deux femmes, je m'excuse le détail, qui sont presque en train de s'embrasser, enfin. Quel message il y a là-dedans? Bon, cela. Donc, on voit qu'ils sont pour le relativisme. Ils continueront après, hein. Mais mon père, qu'est-ce qu'il va avoir après l'homosexualité? Mais la polygamie. Et comment on va réintroduire la polygamie dans l'Europe à travers l'immigration musulmane? On a déjà les problèmes légaux en Italie. Il y a Ali Baba qui se présente à l'hôpital avec la première femme et demande l'assistance sociale. Et après, il amène de la Tunisie la deuxième femme. Et alors, il se présente au juge et dit, vous n'allez pas discriminer ma religion. Et ma religion me permet... Et le juge, non, surtout, pas de discrimination. Alors voilà, les charges sociales aussi pour la deuxième femme, ils en ont 4. Alors les braves, Giovanni Brambilla de Milan, qu'il en a un seul mois, il travaille pour l'assurance sociale, il doit maintenir aussi les... Mais ils sont en train de, évidemment, de démonter tout l'ordre chrétien. On verra. Et après, il y aura encore d'autres choses. On voit que la chose se dessine peu à peu. Mais enfin... Alors, gardez cette explication, je crois que c'est la plus simple. Ou la vérité objective avec toutes ses conséquences, je dis religieuses, politiques, sociales, ou alors sera le relativisme avec toutes ses conséquences religieuses, politiques, sociales, et on ne s'arrête pas à mi-chemin. À l'époque, en Italie, où on passait la loi du divorce et après la loi de l'avortement, il y avait les gens qui avaient une vision très limitée, ils disaient, oui, c'est passé le divorce ou l'avortement, mais pas plus, hein, pauvres. Ils ne comprennent pas qu'ils sont des principes qui sont en train de s'appliquer. Donc, c'est là, bon. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter, donc, on se sert encore déjà par les principes, et on voit que c'est le relativisme progressif qui nous tombe sur là. Et bien sûr, le plus grave de ça, c'est que ces principes de liberté de conscience, les droits de la pratique publique de n'importe quelle idée, sont maintenant enseignés à l'intérieur de l'Église par les hommes d'Église. Ça, c'est le plus grave, parce que c'est le baluard de la défense, c'est l'Église catholique, bon. Et on va arriver maintenant à la contradiction. C'est-à-dire que si, aux années 60, à l'époque du Concile, les hommes d'Église ils pouvaient penser de s'adapter au monde moderne sans trop de conséquences, maintenant, la Révolution s'est fait exigeante. Et alors, on commence à se rendre compte qu'ils vont nous obliger à faire des actes positifs contre la foi catholique. Et cela, ça, je voudrais le présenter par un petit schéma que vous avez déjà vu quelque part. Essayez de voir les choses comme deux volontés, à la manière de Saint Ignace, les deux étendards. La volonté de notre Seigneur et la volonté du démon. Dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Vierge, qui peut nier que notre Seigneur a un désir infini pour nature, et les droits aussi, d'être adoré exclusivement avec le Père et le Saint-Esprit par tous les hommes, et donc d'éliminer les autres religions? Et vous, déjà, vous rendez compte que cela est incompatible avec la mentalité relativiste d'aujourd'hui. Mais demandez à notre Seigneur s'il n'a pas une volonté infinie d'être adoré exclusivement. Hein. Quand il donne les 10 commandements, il dit, « Je suis ton Dieu, tu ne mettras pas d'autres dieux devant moi. » Dans le livre de Samuel, il dit « Enlève les dieux étrangers d'Israël, autrement je t'effacerai de la face de la terre. » Mais ça, c'est pour l'histoire des nations, mais au moment de la mort. Et alors Jésus-Christ vous regarde dans les yeux et vous dit « Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. » Pour nous, c'est une question de salut éternel. La gloire de Dieu d'abord et le salut éternel. Moi, je ne veux pas perdre le ciel. Alors, si on arrive maintenant que le monde moderne va nous obliger à un acte positif, parce que pour le moment, ils sont en train d'installer un système juridique. Mais ce qui s'est déjà passé à Buenos Aires, une brave femme, personnelle, non enseignante de l'école, lui a donné un papier qu'elle a signé parce qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il était pour la l'égalité de toutes les religions. Très bien, il a signé la brave traditionnaliste, je n'aurais pas compris. Mais c'est ces jours-là, si pour avoir un travail, l'année 2002, ils vont vous dire, ben oui, d'accord, mais il faudra que vous signiez les droits de l'homme, qui vous affirmez que tous les gens sont égales. À ce moment-là, vous allez signer ou ne pas signer votre salut ou votre perdition éternelle. Sachez-le, au moins sachez-le. Si vous avez honte de moi, de ma divinité, devant les hommes, j'aurai honte de vous. Bon, ça c'est les tableaux dans lesquels on va vivre les prochaines années. Donc nous avons notre Seigneur qui nous demande de garder la foi comme sainte vierge, solitaire si sera nécessaire. Mais de l'autre côté, ils vont essayer de nous serrer les boulons. Ils veulent faire disparaître le catholicisme. Si vous voulez un autre point de vue, qui peut nier que notre Seigneur il a un désir infini par nature, et la Vierge participe par grâce, que tout homme rentre exclusivement dans l'Église catholique, éliminer les églises protestantes. Demandez-lui. Notre Seigneur, mais vous voulez que tous les hommes rentrent exclusivement dans l'Église catholique? Bien évidemment, évidemment. Quelqu'un qui a encore un peu l'essence de la foi, il est descendu sur la terre, il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre j'ai bâtirai mon Église. En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Alors, c'est la volonté de Jésus-Christ que tout le monde entre exclusivement. Mais allez dire ça seulement 10 mètres plus loin de la porte de la chapelle. Comment ? Intégrite, voilà, et je vous épargne tous les adjectifs. Plus, qui peut nier que notre Seigneur a un désir infini par nature, la Vierge par grâce, que l'État soit catholique ? Les lois, donc, éliminer implicitement l'État à confessionnel, neutre et laïque. C'est la quas primas. J'ose dire que c'est le centre du combat, la royauté sociale de Jésus-Christ. Parce que d'ailleurs, il commence à le dire. Pie XI, il a fait l'encyclique 1925 en disant « Oui, l'État doit reconnaître la religion catholique. » Il ajoute une parole qui sera fatale. Et c'est une dogme des foi catholiques. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pour ça, vous n'allez pas vous sauver. On ne peut pas se sauver si on refuse une dogme. Il ajoute, il a une dogme des foi catholiques. La royauté sociale, voilà. Mais allez dire encore ça à l'État catholique aux gens, mon pauvre ami, voilà. Plus, quatrième point de vue, point de repère, qui peut nier que notre Seigneur a un désir infini par nature et la Vierge par grâce, que nous gardons l'inimitié avec les serpents, ses idées, ses œuvres et ses enfants. Donc, éliminer le pacifisme. Pacifisme, c'est de renoncer à ses convictions pour avoir la paix. N'est-ce pas? C'est un péché mortel, en théologie morale et pacifisme. Ne pas défendre sa patrie, ne pas défendre sa famille pour sauver la peau, enfin, c'est un péché mortel. Ben voilà. Qui peut nier que notre Seigneur, il veut qu'il nous gardons. Il a dit au début de l'histoire, « Je mets une inimitié entre toi, serpent, et la femme, et tes enfants et ses enfants. Ben » c'est quand même notre Père qui va nous donner. Ce matin, on a médité, n'est-ce pas, la créature et son belle. Vous voulez perdre les créateurs? Vous voulez perdre les banquets éternels pour un supplice éternel? Vous décidez, vous êtes libre. Alors, on va, bien sûr, à ces situations, maintenant, ça commence à se manifester un peu. Il veut nous faire apostasier de la foi. Dieu a mis une inimitié. C'est l'unique inimitié qu'a mis Dieu, dit les Montfort dans les traités. C'est juste le contraire du mariage. Dans les mariages, on dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et si on dit le contraire, que l'homme n'unisse pas ce que Dieu a séparé, la femme et le serpent, le fils de la femme, il ne faut pas unir, il ne faut pas faire l'œcuménisme plus haut que la vérité. Dieu a mis une inimitié, eh bien, il faut être fidèle à cet esprit des fois. Les péchés plus graves, on vient de méditer le chemin des croix, sachez-le toujours, lisez la théologie, vous le savez bien, sont les péchés contre la foi. Parce qu'ils nous séparent directement de Dieu. Toute la passion de notre Seigneur, en proportion, c'est pour les péchés plus graves. Contre la foi, contre l'espérance et contre la charité. Qui nous séparent directement de Dieu. Et aussi tous les autres péchés. Mais enfin, sachez que ce qui blesse le plus le cœur de notre Seigneur, c'est ceux qui trahissent la foi. Que des fois il dit, nous a fait méditer le Père Bariel, l'Évangile. Que des fois notre Seigneur doit dire aux apôtres, honte de peu de fois.